On s'apprête à entrer dans un sanctuaire. Il conviendra donc de courber la tête, comme devant une reine. Une reine des prés et des champs, des étendues de joints herbeux et fantasques. Quel parfum emportait sur une île déserte qui n'en aurait aucun? Tous ceux dont je parle, certes, mais celui-ci plus qu'un autre, qui me rattache par des liens mystérieux à l'apprentissage du monde. Je passe mon enfance dans un éblouissement permanent où la nature accompagne chacune de mes métamorphoses en me délivrant un secret. Secret des oiseaux, des poissons, des rongeurs, des fleurs, des arbres, des roches, des eaux. Secret des jours et des saisons, des nuages, des météores, des brouillards et des constellations. Il y a tant à apprendre et à recevoir. J'absorbe. Les yeux fermés, je marche dans le pré en jachère. C'est une fin de juin pluvieuse et douce, presque chaude. L'école est derrière moi. Une grande serre s'est posée sur la campagne, préservant dans sa buée nourricière les berges du Sanon, le Rambétan, les premières fermes de Sommervilliers dont je devine les toits au loin. Étuve. Le soleil derrière les minces nuages refuse de se coucher. L'herbe déjà haute est trempée. À chacun de mes pas, elle se sèche contre mes cuisses en y déposant des gouttes tièdes qui dévalent jusque dans mes bottes. Je la caresse avec mes mains. Je ferme les yeux. Je ne veux pas voir, juste sentir. L'eau, le printemps. Les odeurs de terre mouillée, impatientes d'accueillir de jeunes verdures. Je cherche. Je les sais toutes proches. Je veux une fois de plus être la victime de leur sortilège. Ce sont les sirènes des champs. Elles séduisent le promeneur par leurs effluves verdanettes et le pauvre ne peut ensuite s'attacher à d'autres herbes, hanté qu'il est toujours par leur flagrance cumineuse où on peut reconnaître, atténuée, des notes éparses d'anis et de girofle. Ombellifère. Et le nom tout à la fois féminin et terminé abruptement par une finale mâle est un sésame de conte. Je le murmure en marchant. Je le répète. Ombellifère. Ombellifère. Grande tête couronnée aux fleurs petites disposées déjà comme un bouquet, aigrette d'élégante que je retrouverai plus tard dans les pattes de verre opalescentes et les marqueteries rousses des mille galets, et dont les odeurs se délassent dans l'air. Comme ces complexes corsets qui emprisonnaient jadis le corps impatient des jeunes filles et celui plus lourd, alangui et capiteux de leur mère.
Vieillesse. Si leurs joues ressemblent à certains fruits, pommes ou poires, fripés et travelés, quand ils se sont assoupis trop longuement dans un compotier de faïence. Elles en ont aussi l'odeur cireuse, atténuée, charmante, lointaine et douce. Souvenir de parfum plutôt que parfum lui-même. La mort qui n'est guère loin donne au corps une usure émouvante comme celle d'un linge de fine étoffe. Maintes fois lavée, maintes fois portée, et dont la trame devenue presque translucide possède une souplesse idéale, mais que l'on sait fragile. La peau, les cheveux, les doigts, des vieilles personnes sont comme ce linge qu'on voudrait garder toujours et qu'on entoure de soins afin que jamais il ne se déchire. Nous savons pourtant que bientôt, nous ne pourrons plus embrasser ces êtres aux manières hésitantes, délicates, et c'est pour cela que les baisers que nous leur donnons et ceux qu'ils nous rendent se chargent à chaque cérémonie des retrouvailles et des adieux, d'une émotion qui dilate nos sens, car nous voulons avec force tout garder d'eux. Le plus petit sourire au clignement d'yeux. Les paroles, les caresses, la chaleur, l'odeur. Je me souviens dans mon enfance de vieilles femmes au visage parsemé de kystes. Nous disons des cerises, dont le menton se prolonge d'une barbiche grisonnante et dont tout le visage n'invite pas à la tendresse mais qui, si on s'approche d'elle, exalte des senteurs de lait d'amande, de fleurs d'oranger et de roses anciennes. Il y a tant de distance entre l'apparence hideuse de leur visage et de leur corps cassé. Certaines marches courbées à angle droit, et ces parfums de jeunes filles, voire de nourrissons au berceau, que souvent il me semble que je rêve ces odeurs. Mais je me souviens aussi d'une autre vieille femme. sorcière des jardins, pissant debout sans relever ses longues jupes, ni sa blouse, ni son sarrau, perdant son regard voilé d'une manière blanche vers le lointain, tout en tenant sa bêche, et reprenant aussitôt sa besogne après s'être ainsi soulagée. Quand je la croise dans les rues, tirant sa charrette sur laquelle elle pose ses outils et ses récoltes, je presse le pas, non pas pour éviter que les relents d'urine rancie qui imprègnent toujours ses vêtements me fassent défaillir, mais parce que tout simplement elle me fait peur, moi qui suis encore dans cet âge incertain, où, tout en nous éloignant d'une forme de pensée primitive, nous en gardons les plus saillantes superstitions. Il me faut aussi parler des hommes âgés de ce temps, dont je cherche souvent la compagnie, afin de pallier l'absence de mes grands-parents, morts tous les deux bien des années avant ma naissance, en 1938, d'une leucémie pour Lucien, le père de mon père, en 1957, pour le père de ma mère, Paul, d'un arrêt cardiaque en pleine rue. Une attaque, pour employer le mot que j'entends toujours dans mon enfance, et qui dit bien la brutale exaction de la mort, sa sauvagerie de vaurien fondant sur sa victime. J'aime les vieux, j'aime tout en eux. Leurs regards, leurs mots, leurs gestes, leurs vélos déglingués, leurs mobilettes, leur colère, leur savoir. Les vêtements qu'ils portent été comme hiver, les nages rapiécés, marron ou bordeaux, pantalons et vestes en bleu, de chauves dont la patine adoucit la couleur de la toile de plage blanchâtre, béret basque, râpé, dont le cuir intérieur s'est craquelé à force de boire toutes les sueurs et les habitudes intangibles dans les nombreux cafés que Dombasle abrite à cette époque, les culottes d'un parfum de tabac gris, de blagues en cuir, de gros vins rouges, de laine, de veuvage, de graisse de moteur et de feu de jardin. Mon père sent cela dans les dernières années de sa vie, l'odeur du tabac, en moins qu'il ne fume pas. Et nous qui ne nous sommes jamais tellement embrassés auparavant, mon père n'a jamais manifesté aucune forme de tendresse. Rattrapons le temps perdu. J'aime le prendre dans mes bras quand je viens le visiter ou quand je le quitte, et je fais durer ce moment. Son corps est devenu fragile et maigre. Les os de ses épaules sont tout proches, là où jadis muscles et graisses formaient de grandes masses compactes. Je le serre contre moi. Je l'embrasse plusieurs fois. J'ai l'impression émouvante d'étreindre et de respirer un très vieil enfant.
Maison d'enfance.
Je suis assis à la table de la cuisine et nous sommes le 17 novembre 2011. Au dehors, il fait quelques degrés au-dessus de zéro. Il bruine. C'est un jour gris comme je les aime. Dans 2 heures, il fera nuit. La maison est inoccupée depuis plus de 2 ans, depuis la mort de mon père. A été partiellement vidée de ses meubles et nettoyée. Traînent encore beaucoup de choses, meubles, cartons ouverts, vaisselle en tas, sacs en plastique qu'on a commencé à remplir d'objets divers, médicaments, paperasse. Le lit de mon père a disparu. Il a cassé en s'écroulant, un matin après être allé boire son café. Des balais sont en plan. Un aspirateur qui paraît s'ennuyer occupe à lui seul tout le salon. La maison ressemble à un mort dont on aurait à demi fait la toilette et puis qu'on aurait abandonné ainsi, sans raison majeure, ni par dégoût, ni par oubli, mais tout simplement parce qu'on avait autre chose à faire.
J'ai hésité longtemps avant de venir écrire ce texte ici, à cette même table où, enfant, je faisais mes devoirs. Dans cette cuisine qui n'a pas beaucoup changé, où nous prenons nos repas, jouons au Monopoly, aux nains jaunes, aux petits chevaux, au baccalauréat, avec mes sœurs Brigitte et Nathalie et mes parents. Il fait très froid dans cette maison aujourd'hui. Elle n'est pas chauffée. Personne n'y habite plus. C'est la maison d'un mort. Et mon père, dans sa tombe de l'autre côté de la route, à moins de 200 mètres, ne doit guère avoir plus froid que moi. Si je lève les yeux par la fenêtre, je retrouve le paysage de mon enfance. Les jardins sont toujours là, mais désormais laissés à eux-mêmes. Celles et ceux qui les cultivaient avec obstination ont disparu depuis longtemps. Je dis leur nom pour qu'ils ne soient pas tout à fait oubliés. Le grand Ocard, Madame Caour, Madame et Monsieur Monin, Madame et Monsieur Herbert, Monsieur Méline, Monsieur Lebon, nos voisins les Moretti, les Claude, les Rippling, les Finot. Voilà, il y a toujours la mare, les prés, le cours du Sanon, le grand canal, et au-delà, le rembêtant qui disparaît dans la brume et le ciel.
Quelqu'un a parqué une caravane derrière le petit chemin. Tache blanche et jaune, incongrue. Je me demande quel voyageur il peut bien attendre. Mais peut-être a-t-on décidé de la laisser là, comme certains tentent de perdre leur chien quand ils sont lassés. Je fais le tour des pièces. J'entre par le garage après avoir actionné les trois verrous dont mon père, dans ses derniers jours inquiets, a doté la porte. Je retrouve l'odeur d'essence, d'égout et d'atelier de bricolage. Burette d'huile, lanière de cuir, sangle. Sur l'établi, écrite à même une latte de bois, la phrase d'Einstein. L'ordre est la vertu des médiocres, dont il avait fait une commode devise. Je reviens chez moi, en terre connue. Mais ensuite, plus rien. Je monte à l'étage, cuisine, chambre, salon, séjour. J'ouvre les volets, je vais au grenier, passe dans la chambre de ma sœur aînée et j'arrive dans ma mansarde que mon père aménage quand j'ai 13 ans. Ma chambre. Mon domaine qui devient quand je quitte le lieu celui de ma petite sœur. Lambris de sapin en mur et au plafond, bureau fait de la même essence, moquette verte au sol. J'aime cet endroit. Il évoque les refuges en montagne qui me font rêver et que je fréquenterai plus tard.
J'y fume ma première cigarette. J'y regarde des années durant sur un vieux poste en noir et blanc le ciné-club de Claude Jean-Philippe et c'est donc là, sous le toit, que je rencontre Jean Grémillon, Julien Duvivier, Ernest Lubitsch, Franck Capra, Federico Fellini et quelques autres. Le même froid penaud trempe toutes les pièces et j'ai beau respirer longuement, me moucher à plusieurs reprises pour dégager mes narines, fermer les yeux, je ne sens aucune odeur, aucun parfum. Rien. La maison ne sent plus rien. Mon père est parti en emportant ce qui fait la marque de cette habitation. Il est mort, et le parfum de la maison est mort en même temps que lui. J'ai froid. C'est la première fois que j'écris ici depuis tant d'années. Plus de 30 ans, je pense. C'est aussi la dernière. Bientôt, la maison sera vendue, repeinte, transformée. Des êtres l'habiteront, y apporteront leur vie, leurs rêves, leurs peines, leurs angoisses et leurs quiétudes. Ils y dormiront, s'aimeront, mangeront, se laveront, iront au cabinet, bricoleront, pleureront, riront, élèveront leurs enfants. Peu à peu la maison, comme une cire malléable, se conformera à eux et retiendra leurs odeurs.
Je sais que passant devant elle, à bicyclette ou voiture, je ne la regarderai pas. Je ne pourrai pas. En allant à Semerviller, je préférais tourner la tête vers la droite. Vers le cimetière, vers les morts, vers mon père. C'est triste de ne plus rien sentir. C'est triste d'être là, dans la maison froide qui a perdu son parfum, comme Peter Schmel a perdu son ombre. Je pensais même pleurer, moi qui pleure si facilement. Mais non, je suis seulement surpris, étonné. Je ne sais pas si c'est moi qui ai dérivé ou si c'est la maison. Mais nous sommes désormais comme deux étrangers l'un à l'autre. Après tout, c'est ma faute. Personne ne m'a forcé à y revenir. Je vais partir. Je vais refermer les volets, les lumières, les portes, actionner les trois verrous. Je vais retourner dans la vie. Ici, je n'ai plus ma place. Je viens de le comprendre. Je viens aussi d'éternuer. Si je reste encore, je sens que je vais m'enrhumer. Chez nous, on dit attraper la mort.